la nécessaire évolution de l'enseignement, de la pédagogie et de la formation. Un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, jeudi 7 mars 2024.
Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau colloque éthique avec un thème, une fois de plus, brûlant, la nécessaire révolution de l'enseignement, de la pédagogie et de la formation avec un plateau exceptionnel. Comme d'habitude, on va avoir deux tables rondes ce matin. Une première, justement, pour se poser la question, comment améliorer l'enseignement? Et puis une deuxième, la formation, qui est un enjeu central, essentiel également pour les entreprises. Parce que oui, on fait des études, mais in fine, à quoi ça sert? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on est suffisamment armé pour travailler ensuite dans les entreprises? Est-ce que cette formation, elle pêche en ce moment? Est-ce qu'il faut la soutenir? Est-ce qu'il y a des écoles privées ou d'autres solutions alternatives? C'est de tout cela que nous allons débattre avec nos invités ce matin. Mais pour introduire ce thème, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie de Menton. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Présidente du mouvement éthique. Donc nous sommes ici chez vous, avec vous, voilà, puisque cette émission est réalisée en collaboration avec Web Radio Édition, Radio Territoria et Cowork La Radio. Sophie, vous avez voulu justement faire un focus sur l'enseignement et la formation. Pourquoi les chefs d'entreprise, ils vous en parlent au sein du mouvement éthique de cette formation?
C'est même pas ça, c'est que c'est quelque chose qui est présent en permanence. Et puis, alors il y a d'abord effectivement la chef d'entreprise et puis il y a la citoyenne qui vient de constater que dans les classements internationaux, c'est très très mauvais pour nous.
Le fameux classement PISA, là, c'est ça, on ne cesse de reculer.
Le classement PISA en particulier, absolument, et qui classe, c'est les maths aujourd'hui qui sont le drame absolu, sachant que, il y a quelques années, on avait supprimé les maths. Il n'y avait plus de maths. Puis tout d'un coup, on les a remis. Donc maintenant, il y a les professeurs qui harcèlent les élèves et les filles en particulier, pour qu'elles soient meilleures en maths. Donc on est évidemment concernés à double titre. Et ce qu'il y a de fondamental et ce qu'on voit tous les jours, c'est que ceux qui arrivent dans nos entreprises, non seulement ne sont plus cultivés, il y a un vrai sens au mot culture, et ça va jusqu'au fait que on est obligé de les éduquer.
Oui.
C'est-à-dire que c'est pas seulement les former à être bon en informatique, à savoir convaincre un client, etc. Il faut tout leur apprendre. Alors, je mets pas en cause uniquement l'enseignement, je mets en cause les parents, pardon pour ceux qui nous écoutent, mais c'est des jeunes qui ne disent ni bonjour ni merci, qui ne comprennent pas du tout aucun sens de la hiérarchie, pourtant ça existe dans une entreprise, ne serait-ce que par rapport aux clients, et qui sont donc très désarmés par rapport au monde de l'entreprise. Ils ne savent pas ce que c'est. Et vous disiez tout à l'heure, Fabrice, c'est important que on a effectivement dans l'entreprise besoin d'apprendre énormément de choses, mais on a oublié le fait que c'est une culture générale, une attitude dans la vie qui est en jeu. Vous parliez du privé aussi, le privé a gardé des codes, a gardé une façon de s'impliquer beaucoup plus. Donc aujourd'hui, il faut qu'on prenne la place et qu'on essaie de voir comment on peut faire.
Est-ce que vous avez le sentiment, alors je fais une parenthèse, c'est vrai qu'on devait avoir un invité de prestige, bien sûr, notre ancien ministre Jean-Michel Blanquer, qui a eu un drame malheureusement dans sa famille, qui ne peut pas être présent. On l'aurait interrogé justement sur cette réforme du bac, parce que finalement, on a, dans le tronc commun, à partir de la première, décidé de pouvoir enlever complètement les mathématiques, et on voit avec le recul que c'est une catastrophe, notamment du côté des filles qui s'en détournent, et aujourd'hui c'est vrai que la filière va manquer de matheuses, c'est un petit peu dommage.
Absolument. Alors d'abord, toutes mes condoléances effectivement à notre ancien ministre, qui d'ailleurs avait eu un rôle important et intéressant à l'éducation nationale, et qu'on regrette. Comment dire? C'est un épiphénomène. C'est très important pour la France. On manque de femmes ingénieures. Les filles, entre guillemets, étaient moins intéressées par les maths. En tout cas, elles ne se dirigent pas vers les mathématiques. Cela dit, là-dessus, il faut effectivement avoir un enseignement tout à fait égalitaire. Et on a remis les maths au programme. Très bien, parce qu'on a vu que c'était catastrophique. Pourquoi est-ce qu'on les avait enlevées? Mystère. Mais il faut aussi arrêter l'égalitarisme à tout prix. Je veux dire que non, les filles ne sont pas des garçons comme les autres. que, après tout, si elles n'ont pas envie d'être ingénieurs, il faut les y inciter, leur donner les possibilités de l'être. Mais voilà, si elles sont plus intéressées par la communication ou certaines matières, je sais, ça va être terrible, je vais avoir une levée de bouclier. Non, les femmes ne sont pas des hommes comme les autres.
Alors, pour autant, il faut les éduquer
de la même façon. Après, elles choisissent.
Ce qu'elle dit, c'est il y avait un article très intéressant, qui, le Parisien a fait ça une, hein, il y a quelques jours, justement, là-dessus, sur ces filles qui ne sont plus intéressées par les maths. Ce n'est pas qu'elles sont plus intéressées, c'est qu'en fait, on les décourage par rapport aux garçons qui sont plus ou moins valorisés, où on dit non, ce n'est pas fait pour toi. Et elles regrettent un petit peu quand
même.
Il ne faut pas exagérer. Ces heures de
D'abord,
maths.
D'abord, les profs, je vois très mal un prof dire ce n'est pas fait pour toi. Que les parents. Alors, ça, les parents, c'est tout à fait différent. Parce que les parents, les grands-parents restent dans des schémas culturels.
Oui.
Mais Dieu sait si on peut reprocher des choses à certains professeurs et à l'éducation nationale. Je ne vais certainement pas leur reprocher de dire c'est pas fait pour toi. D'abord, ils n'ont pas le temps. Et voilà. Alors, maintenant, qu'il y ait des vrais problèmes sur le plan de l'enseignement, moi, ce que je reprocherais à l'éducation nationale, et c'est ce que j'ai entendu, c'est effectivement de dire on n'est pas là pour les préparer à l'entreprise. On reste un peu les bras ballants. Non, nous ne sommes pas là pour leur donner des clés pour l'entreprise. S'ils n'ont aucune envie de travailler dans une entreprise, c'est très bien et c'est leur problème. Nous sommes là pour leur donner une culture, pour enseigner. Mmh. C'est vrai, en tout cas, ils les préparent très bien au chômage. Hein. Ça, y a pas de problème. Ils ne les préparent pas à l'entreprise. Mais, alors, donc, il y a quand même aussi cette espèce de rejet du privé et de l'entreprise qui a quand même été un peu sous-jacent. L'entreprise était un peu un lieu d'exploitation pendant des années et des années. Là-dessus, on commence à avoir un peu évolué. D'où d'ailleurs la fête des entreprises que j'ai initiée qui s'appelle J'aime ma boîte pour expliquer ça aux jeunes. Alors, heureusement, on a aujourd'hui Gabriel Attal qui a eu une vraie bonne idée en essayant de reprendre complètement ça et de faire des stages, d'instaurer des stages dès la seconde, je crois.
Il y en a déjà un stage de cinq jours en troisième.
Ouais. Voilà. Oui, mais il y en avait un en troisième et puis...
Et là, maintenant, il va y en avoir en seconde.
Voilà. Et puis, il y en avait un... Oui, voilà. Alors, évidemment, on va dire que c'est pas possible, qu'il n'y a pas assez d'entreprises, etc. C'est pas vrai. Les entreprises, elles sont prêtes à accueillir les jeunes. Et partout et dans tous les milieux, il faut un peu se démener, mais on peut. On y arrive.
Est-ce que c'est pas une fausse bonne idée? Je m'explique. Si c'est le stage, voilà, de 5 jours, bon, on se demande ce qu'on peut faire en 5 jours, et le stage photocopieuse. Alors, c'est bien le jeune où, à 14-15 ans, il va aller voir ce qui se passe en entreprise. Souvent, c'est peut-être une entreprise amie de ses parents,
oui,
etc.
Oui.
C'est ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il fait pendant 5 jours? C'est déjà important de mettre le pied justement dans l'entreprise.
Écoutez, je vais faire une comparaison qui n'a pas lieu d'être. Je vais vous dire qu'il y a un jeune sur 5 qui ne reconnaît pas une courgette. Bon, vous allez me dire que ça n'a rien à voir. Si, on les amène au salon de l'agriculture, ne serait-ce que pour qu'ils voient un peu ce que c'est. Eh bien, c'est la même chose. Je crois qu'il y a besoin absolument de se frotter à un univers, de se frotter au monde de l'entreprise. Ils vont découvrir que les gens travaillent, ce que c'est qu'un open space ou une salle de travail, pour ne pas utiliser le franglais.
Que vous critiquez d'ailleurs. Hein. Vous n'aimez pas ce franglais. On va en parler tout à l'heure.
J'aime l'anglais, j'aime moins le franglais. Mais c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, on est complètement passé à ce franglais. L'open space, on ne sait même plus comment le traduire. Donc, ils vont voir ce que c'est qu'une comptabilité. Ils vont voir, ils vont assister à une réunion. Ils vont se rendre compte que tout le monde doit participer, que tout le monde a de l'importance, qu'il y a la vente, qu'il faut saluer le matin, qu'on a une tenue. Je suis désolée, c'est de l'initiation.
Bon, il faut voir ça comme une initiation. Voilà,
oui,
comme
oui,
quand
non, c'est bien, c'est
plongée,
beaucoup mieux que rien.
Très bien. Et ça se multiplie. Alors, on parle ce matin de révolution, la nécessaire révolution de l'enseignement. Qu'est-ce qui pêche? Est-ce que, puisqu'on voit 23e dans le classement PISA, on ne cesse de décrocher, est-ce qu'il y a des enseignements à l'étranger, à l'international, vous qui parcourez le vaste monde, qui seraient plus intéressants, qu'on pourrait finalement copier? Par exemple, il ne faut pas aller très loin. On parle tout le temps de la Corée, là, qui est dans les classements, à quel prix? Parce que les élèves, hein, y en a certains qui sont en burn-out. Bon. L'Allemagne, par exemple, ou l'Angleterre, il y en a qui travaillent beaucoup plus le matin, sur des durées plus longues, moins de vacances, mais en revanche, ils ont l'après-midi disponible pour faire du sport. C'est une bonne idée ?
C'est compliqué de dire ce qui est une bonne idée. D'abord, il faut correspondre à la mentalité d'un pays et d'un peuple. On n'est pas des Allemands et on n'est pas des Coréens. Donc, il y a déjà tout ce qu'on trimballe avec cette éducation, qui a été quand même très politisée. C'est quand même un monde, un univers où il y a des grèves, où il y a plus d'absentéisme que dans les autres pays. Donc, l'éducation s'adapte peu au monde économique et au monde tout court. Ça, c'est notre spécificité. Donc ça, il faut le prendre sur les autres et regarder ce qu'il en est. Je crois aussi que on travaille moins. Alors, les élèves ont l'impression de travailler plus et que les autres font du sport, mais pardonnez-moi.
Ils font beaucoup d'heures, en tout cas, aux élèves.
Oui.
J'ai
l'impression qu'en France, on est dissuasif sur le travail. Moi, je suis absolument stupéfaite qu'on dise qu'il y a des secteurs dans la fonction publique où on va faire des semaines de 4 jours, de 5 jours en 4 jours. Ça veut dire d'abord qu'on va travailler plus, comment, pourquoi. Si nous, on demandait ça à nos salariés, on aurait des grèves avec des syndicats qui diraient comment. Vous alourdissez le travail d'une journée. Donc, on a un rapport très compliqué. C'est pour ça les parents s'orientent vers le privé. Souvenez-vous, il y a des dizaines d'années, les bons élèves allaient au lycée, les bons élèves étaient dans le public et les nuls étaient dans le privé.
Oui.
On a complètement inversé la tendance. Quand les élèves avaient des difficultés, on les mettait dans un cours privé. Et c'était un peu la honte. Comment est-ce que ça a pu basculer à ce point-là? C'est fascinant. Là, on va plus dans le public, et quand on veut réussir, y a quand même de meilleures chances quand on les met dans des cours privés.
Alors après, il y a quand même des établissements publics très prestigieux et parmi les meilleurs.
Oui, attendez, alors exemple, ils sont très prestigieux. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une honte. Il y a les bons élèves dans les établissements prestigieux. Et on a essayé dans des, je ne les citerai pas d'ailleurs, dans des lycées qui sont des lycées d'exception, on a dit non, ça suffit, on va prendre des élèves qui sont moins bons, on veut niveler par le bas. Parce que niveler par le haut, c'est difficile. Il faut élever le niveau et ça, ils ne sont pas capables de le faire. Donc, c'est plus simple de niveler par le bas. Non, nos établissements d'exception maintenant veulent chercher des élèves moins doués. Moi, je pense que l'excellence, c'est quelque chose d'important, que la compétition, c'est important, mais des formations du chef d'entreprise. Il y a une compétition obligatoire et il faut récompenser les meilleurs. Le mérite, c'est bien. Les distributions de prix, c'est bien. On est aux Jeux Olympiques, on ne va pas aller récompenser les plus mauvais.
Mais justement, ça veut dire que si aujourd'hui tout le monde a le bac, tout le monde a la médaille, finalement la médaille ne vaut plus grand-chose et la sélection se fait ailleurs.
Je ne vais pas vous expliquer à quel point le bac ne veut plus rien dire. Le bac est catastrophique d'ailleurs. Et il est tellement contre-productif, ce baccalauréat, qu'on a découragé tous les enfants qui avaient une vocation, qui n'avaient pas besoin de passer le bac. On a des métiers formidables, les métiers de la main. Et à Éthique, nous avons suggéré qu'il y ait une université de la main. Ça a été tellement dévalorisé.
Oui. Tous les métiers de l'artisanat, par exemple?
Bien sûr, les métiers de l'artisanat. L'artisanat d'art et le groupe LVMH a lancé les métiers de la main de l'artisanat d'art. Et c'est fondamental que ce soit la haute joaillerie, que ce soit tout d'ailleurs, y compris la plomberie. Je veux dire, on a besoin de ces métiers, il faut les valoriser, mais on a découragé les parents. C'était la honte d'orienter un enfant et un jeune. Il fallait avoir le bac. Donc le baccalauréat, maintenant tout le monde l'a, et je pense que c'est peut-être quelque chose à revoir aussi. C'est à se demander s'il ne faut pas le supprimer.
Suppression du bac, une mesure forte en tout cas.
Et élévation du niveau des études, le mot orientation est mal vu, mais diagnostiquer, on en parlera tout à l'heure, diagnostiquer le potentiel d'un enfant plus jeune. Oui. Pourquoi est-ce que vous voulez pousser un enfant à faire ce pourquoi il n'est absolument pas particulièrement doué, en l'empêchant de faire ce qu'il... Et d'ailleurs, vous parliez des pays étrangers, le sport l'après-midi, même les facs. Les facs recrutent des élèves qui sont de très bons sportifs parce qu'elles sont fières d'avoir des équipes dans les universités américaines qui sont exceptionnelles sur le plan des sports.
Oui.
Nous, on est des intellos. Et en fait, l'éducation nationale et l'université veulent faire des intellos. Et je crois qu'on est dans un monde où autant il nous faut des philosophes, des intellectuels, autant il faut réfléchir, autant, et Jean-Marie Roy nous en parlera en conclusion, le livre est assez fondamental, autant on est à un moment de notre évolution où, en particulier avec l'intelligence artificielle, etc., le rapport au savoir n'est plus le même.
En vous écoutant, j'ai l'impression que vous proposez en fait de ne pas laisser l'éducation qu'à l'éducation nationale, qu'aux profs. Il faudrait peut-être que les entreprises aussi montent en puissance, essayent de qu'il y ait une porosité peut-être aussi de la vraie vie dans l'éducation.
Vous avez tout à fait raison, c'est une excellente question et je pense un peu ça, mais je pense aux parents. Alors, je vais avoir l'air terrible, mais au restaurant, je me retiens à chaque fois. Quand je vois un enfant de 3 ans qui passe une heure avec ses parents à table, une heure et demie, alors qu'il n'a peut-être pas la chance de les voir souvent, on lui file une tablette. Donner des livres à vos enfants. J'ai une collection de livres pour enfants que j'écris chez Gallimard Jeunesse, Le Monde aujourd'hui raconté aux enfants. Enfin, le livre, c'est merveilleux. Donc, la porosité, oui, mais nous sommes, nous, parents, coupable de nous être déchargés complètement sur l'éducation nationale. Il faut que l'éducation nationale fasse tout. On n'ose pas parler d'éducation sexuelle à nos enfants. Non, il faut l'éducation sexuelle. On va donner des cours d'empathie, mais je rêve. Les parents ne sont pas capables de donner de sérieux cours d'empathie à leurs enfants. Leur expliquer que ce que c'est qu'effectivement l'égalité, la tolérance, etc. Eh ben non.
L'éducation civique également,
mais
qui
oui.
a été déléguée.
Oui.
Donc, trop de choses ont été déléguées, selon
mais
vous.
Mais beaucoup trop de choses. Alors, je
sans que toutefois les professeurs ou les chefs d'établissement, on a l'impression que dans le même temps, on leur a enlevé des responsabilités. Ils n'ont plus tellement voix au chapitre. Et tout de suite, dès qu'il se passe un incident, il y a les associations de parents d'élèves qui montent au créneau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est
devenu compliqué. Je ne crois pas qu'on ne leur a pas donné voix au chapitre. Je pense qu'ils sont un peu libres. En revanche. Oui, aller se précipiter pour accuser le professeur. Enfin, on a tous connu ça. Je ne sais pas si vous l'avez connu, mais je crois aussi. Quand on rentrait avec une mauvaise note, ou même quand on avait une heure de colle, on se faisait engueuler.
Oui.
Maintenant, on va engueuler le prof. Et moi, j'ai été professeur 1 an. Ce n'est pas beaucoup, mais ça a été quand même quelque chose d'important.
Oui.
J'étais professeur d'anglais.
D'accord.
Non, quand j'avais 20 ans. J'avais fait une licence d'anglais, bon, très bien. J'ai commencé déjà à avoir des parents qui venaient me voir en demandant pourquoi leurs enfants avaient de mauvaises notes. Donc, moi, je déteste l'attribution des responsabilités. Nous sommes tous dans le même bateau. L'éducation nationale doit changer. Les parents doivent absolument s'impliquer de façon différente. L'autorité doit être établie. Il n'y a plus d'autorité dans les classes, il n'y a plus d'autorité des parents. Donc on a aujourd'hui les événements de jeunes qui attaquent leur lycée il y a 3 jours est quand même stupéfiant. Et d'un autre côté, c'est vrai que ce lycée était dans un état qui est absolument inadmissible. Inadmissible dans un pays civilisé, entre guillemets.
On voit que ça fait beaucoup de sujets, hein, finalement, ce thème de l'enseignement, de l'éducation, de la pédagogie. Il touche à beaucoup de choses, il fait société, c'est un pilier de notre société.
Corps,
d'ailleurs,
c'est un socle.
Sophie de Menton, on investit des milliards. Hein. Un élève coûte extrêmement cher par rapport à d'autres, mais bon, ça c'est notre système qui le veut. Mais au bout du compte, c'est vrai qu'on peut se demander si on s'y retrouve. C'est vrai qu'il y a une filière d'excellence, des grandes écoles, des grands lycées, mais il y a aussi malheureusement des gens qui ne sont pas à leur place. Et j'en veux pour preuve, c'est vrai, le nouveau système Parcoursup qui est un petit peu compliqué pour beaucoup de parents. C'est l'angoisse en ce moment, puisqu'il y a, je crois, une dizaine de jours qui restent pour faire ces fameux vœux. Et on voit que c'est aujourd'hui la sélection. D'ailleurs, les élèves de terminale, en ce moment, ne travaillent plus, puisque les notes sont arrêtées. Voilà, Parcoursup.
Travaillent plus, sans compter le mois de juin, qui sera carrément une nursery.
Mais ça, c'est bien pour Roland Garros. Moi, je me souviens du bac. Hein. Il fallait étudier, c'était pas sympa. Là, au moins, peut-être qu'ils auront un peu plus de temps.
C'est vrai. Alors, oui, c'est un socle général. Je pense qu'on doit tous être impliqués. Encore une fois, on est à un changement de civilisation. Pardon, quelle était votre question? Parce qu'on en a... vous avez une question précise, c'était...
Non, la question, c'était justement, on constate que cet enseignement, il est au cœur de notre
société. Non, vous
parliez
de l'argent, pardon. Oui, il est au cœur de tout ça. L'argent. Je vais vous donner un exemple. L'argent est mal utilisé. L'argent public est dilapidé. dilapidée, on finance tout. Je vais vous donner un exemple. On a, c'est une, pour moi une très bonne idée de donner un uniforme, entre guillemets, aux enfants. Immédiatement, subvention, l'État va le payer. J'aimerais savoir pourquoi les parents ne peuvent pas vêtir leurs enfants. Je suis désolée, un uniforme, ça peut être un t-shirt. Il ne faut pas les prendre à 5 euros parce que sinon ils viennent d'ailleurs. Mais il y a quand même des t-shirts à 5 euros. C'est un t-shirt qui est d'une couleur précise, qu'on peut trouver n'importe où. L'enfant ou le jeune va au lycée avec un t-shirt. Puis le t-shirt peut être blanc, impeccable. On peut même imaginer qu'il y a un jean sans trou et bleu marine et que tout le monde doit avoir un jean sans trou bleu marine et un t-shirt blanc. C'est un uniforme. C'est donc... mais bah non, il faut immédiatement financer combien ça coûte, etc. D'ailleurs, le premier lycée qu'il a fait, c'est charmant. Ils ont un uniforme ravissant, on dirait Harry Potter. Donc, les enfants vont aimer une petite veste, etc.
Très
bien. C'est bien. Pourquoi est-ce qu'on met une veste alors qu'on n'en met pratiquement plus, même dans les entreprises? Donc, on est toujours en train de compliquer, de vouloir que financer... Non, les parents sont capables de vêtir leurs enfants. Il n'y a pas besoin de financer les uniformes.
Très bien. On vous retrouve tout à l'heure, Sophie, pour la conclusion. Hein. Justement, on se posera la question avec Jean-Marie Héroir, académicien, auteur et journaliste de la place du livre, justement, face à l'intelligence artificielle, un vaste sujet également. Mais tout de suite, je vous propose de passer à la première table ronde. On va justement continuer le débat. Comment améliorer l'enseignement ? À tout de suite.
Colloque éthique, en partenariat avec Web Radio Édition.